Bonjour, c'est Laetitia et vous écoutez Vieille en puissance, une série de podcasts à l'intersection de trois sujets: l'âge, l'argent, les femmes. Tout au long de leur vie, les femmes se heurtent à des obstacles qui les appauvrissent et creusent les écarts avec les hommes. Dans ces conditions, c'est à la retraite que ces écarts femmes-hommes sont les plus importants, car ils sont la somme de tous ces obstacles. Pour les femmes, qui forment la majorité des personnes âgées, vieillir représente une menace. Pourtant, cela devrait être une chance, non ? Vieillir, après tout, c'est drôlement mieux que l'alternative, mourir. Comment ne pas être une vieille pauvre ? C'est la question qui a déclenché ce projet de podcast avec Caroline Taconnet, Katerina Zekopoulos et moi-même, Laetitia Vito. Les vieilles en puissance, c'est nous, à la fois parce que nous sommes des vieilles en devenir et parce que nous voudrions être en puissance. Bonne écoute ! Bonjour Héloïse.
Bonjour Laetitia.
Héloïse, tu es la fondatrice d'Oseille et compagnie. Ta mission, c'est d'aider les femmes à se construire un patrimoine avec du conseil et de l'éducation financière. Avec toi Héloïse, j'aimerais qu'on parle du sujet des violences économiques faites aux femmes. Et je voudrais qu'on commence un petit peu par l'histoire, parce que les violences économiques, ça n'a vraiment mais rien de nouveau, dans le sens où les femmes ont été dominées économiquement, n'avaient pas de richesse, elles en avaient encore bien moins dans le passé qu'aujourd'hui. Et pourtant, ce concept, il a émergé, mon sentiment, c'est qu'il a émergé de manière très récente. Tout d'un coup, on en parle beaucoup, on parle des violences physiques et on parle des violences économiques faites aux femmes. Alors, quand est-ce qu'il est apparu ce concept et qu'est-ce que ça nous dit ? Enfin, toi aussi, t'as l'impression que ça fait que quelques années ?
Ça fait que quelques années qu'on a posé un nom dessus.
Oui.
Simplement, la réalité des violences économiques, c'est antédiluvien. Mmh. Parce qu'on vit dans une société où on peut te dire « Oui, aujourd'hui, les femmes font ce qu'elles veulent. Elles peuvent s'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari, etc. ou sans l'autorisation de leur père. » Très bien. Mais la réalité financière des familles et de notre société, c'est plutôt une réalité dans laquelle, dans l'inconscient, il y a beaucoup l'idée que l'argent des femmes, déjà, compte moins que celui des hommes, a moins d'importance, qu'il est quand même plus souvent dévolu à la communauté et à l'éducation des enfants, au bien commun. Ce serait une espèce de bien commun, et en fait, on est dans une société encore aujourd'hui où beaucoup d'hommes, malheureusement, considèrent que quand ils sont en couple ou dans certaines familles avec des frères et sœurs, etc., où beaucoup d'hommes considèrent qu'en fait, l'argent de leur femme, de leur sœur, est une espèce de bien commun, alors que la réciproque n'est pas toujours vraie. Mmh. Et ça se traduit par des appropriations de l'argent des femmes, par le fait de les empêcher parfois de gagner de l'argent, ou d'avoir une organisation qui les empêche de gagner de l'argent. Donc ça se traduit par des préjudices pour elles, des préjudices financiers, avec plus ou moins de coercition de la part de la famille, de la société parfois, par un empilement d'injonctions plus ou moins sournoises, plus ou moins violentes.
Plus ou moins explicites.
Et plus ou moins explicites, exactement. À partager un peu plus l'argent. Alors, je schématise beaucoup, mais on va voir que dans la réalité et dans la pratique, in fine, c'est quand même ce que ça veut dire. Je te donne un exemple très récent pour le coup. Très récent, je veux dire, qui est encore court massivement aujourd'hui, qui montre que la société entière a vraiment du mal à considérer que l'argent des femmes et le travail des femmes et donc l'argent des femmes, ça compte autant que l'argent des hommes. C'est l'exemple des écoles quand un enfant est malade, a eu un problème, s'est battu avec un de ses camarades, etc., les écoles... massivement appellent les mères, n'appellent pas les pères. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce message ? Eh bien, il y a une forme de violence économique qui n'est pas affichée. Il y a une violence économique qui dit, en fait, votre travail,
il compte moins.
Compte moins. Vous pouvez être dérangé plus que le père de vos enfants. On sait, en plus, j'ai eu beaucoup de retours quand j'ai fait un post sur le sujet, j'ai eu beaucoup de retours de personnel de l'éducation nationale qui disaient « Mais oui, mais quand on appelle les pères, soit ils répondent pas, soit ils nous envoient bouler. » Alors, c'est, évidemment, tout ça est à nuancer. Il y a quand même des pères qui répondent. Mais tant qu'on a une société qui est encouragée, et l'école représente quand même la société, tant qu'on a une société qui est encouragée à appeler d'abord les mères et à appeler en priorité les mères, eh bien, le message que ça envoie, quand même, c'est votre travail compte moins, donc votre rémunération compte moins, donc votre argent compte moins. Mmh. Et c'est une très forte inégalité et une très forte... c'est une forme de violence, c'est un mépris. Voilà, ça, c'est une violence économique sociétale.
Mais finalement, derrière l'arrivée de ce concept et le fait qu'on en parle beaucoup, il y a quand même un progrès. D'habitude, j'aime pas parler de progrès parce qu'il n'y a pas de linéarité dans le progrès, mais le fait qu'on s'insurge contre ces choses-là, qu'on les nomme, c'est une avancée majeure par rapport à quand on était petite fille et que ces choses ne se disaient pas et elles étaient encore pires qu'aujourd'hui. Donc, en même temps, c'est paradoxal parce qu'on se met à voir des choses, on s'est mis à les voir partout parce qu'évidemment, elles sont partout, mais le fait qu'on ne prenne plus pour normal des choses qui étaient normales pendant tant d'années, ça marque peut-être un moment de rupture quand même. J'ai l'impression de prise de conscience énorme où tout d'un coup, tiens, elle est là, elle est là, elle est là, la violence économique, elle est partout, on pointe du doigt absolument partout, là où ces choses-là ne se discutaient pas, ne se voyaient même pas, ne se nommaient pas.
Oui, alors ça se nomme, et il y a une prise de conscience, et c'est très bien, et en effet... Je remarque que quand on en parle, toi, moi, des gens comme Lucille Quillet, des gens comme Insaf El-Hassini, Rebecca Amselem, la fondatrice des Glorieuses, Émilie Friedli, Marie-Éloi, on est nombreuses à s'emparer du sujet et à en parler. Ça parle beaucoup aux femmes, ça parle à certains hommes, et on a quand même encore beaucoup de gens qui réagissent en disant « Mais de quoi vous parlez ? Mais de quoi vous vous plaignez ? Et est-ce que, en fait, est-ce que vous êtes consciente que là, vous vous plaignez pas des vrais sujets, que les vrais sujets, c'est la baffe dans la gueule ?» Bah alors oui, la baffe dans la gueule, c'est un vrai sujet, on est d'accord. Mais c'est pas parce que la baffe dans la gueule, c'est infiniment grave, que les violences économiques ne sont pas non plus infiniment graves, ou ne sont pas aussi infiniment grave. De toute façon, cette façon de poser des hiérarchies dans l'importance des sujets, c'est déjà une forme de déni. Et malheureusement, on est quand même dans une société dans laquelle il y a un déni de ce sujet-là. Comme il y a un déni de un très 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 grand nombre de sujets liés aux violences faites aux femmes.
Alors de quoi, on parle justement ?
Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas si on n'est pas capable de le définir. Et c'est vrai que la définition, elle est peut-être pas si simple, parce que tu le disais, ça recouvre aussi la notion de manque à gagner, le fait qu'on t'empêche d'en gagner. Mais si on t'empêche d'en gagner, on n'est pas dans le vol pur et simple, ou dans le fait de t'empêcher d'accéder à tes propres ressources ou quelque chose comme ça. Donc ça recouvre en fait ça recouvre beaucoup de choses. Et quand ça recouvre beaucoup de choses, la définition est compliquée. Donc est-ce que tu peux me donner une définition des violences économiques faites aux femmes pour qu'on sache dès le début de quoi on parle ?
Alors on a fait récemment un travail avec les Glorieuses, justement avec Rebecca Amselem et un certain nombre d'autres personnes que j'ai nommées tout à l'heure. On a fait une définition sur laquelle on a pas mal travaillé et qu'on a élargi justement au manque à gagner. Donc je vais te dire la définition à laquelle on a abouti, qui est en fait les violences économiques conjugales se définissent par un contrôle, un appauvrissement ou un manque à gagner qui peuvent aller jusqu'à la dépossession totale des moyens d'autonomie financière des femmes. Alors il faut comprendre que dans ce qu'on appelle les violences économiques, il y a souvent de la coercition. Il y a la notion de une organisation ou un quelque chose qui t'est imposé ou sur lequel tu n'as pas le choix, il n'y a pas de discussion possible. Pourquoi on a élargi au manque à gagner ? Parce que effectivement, dans les violences économiques les plus criantes et les plus manifestes, tu as cette histoire très typique qui arrive beaucoup, et ça va pas, hein, je la minimise pas du tout, qui est, je te donne un exemple, j'ai une carte bancaire, j'ai un compte à mon nom, un jour, la personne avec laquelle je vis me pique ma carte bancaire, va tirer des sous jusqu'au plafond, parfois quitte à me mettre à découvert sans que je sois informée, et va flamber l'argent au casino, alors que, je te la fais très très caricaturale, moi, j'ai plus d'argent pour aller remplir le panier alimentaire.
Comme dans les vieux romans du 19e siècle, de ces hommes qui buvaient tout l'argent pour nourrir les enfants.
Tout l'argent du ménage, enfin, bon, c'est un peu caricatural, mais malheureusement, ça existe et ça se voit encore. Donc, y a de la violence, tu piques la carte bleue, tu utilises l'argent de l'autre sans... l'argent de l'autre et l'argent de la famille, sans prévenir, tu vas l'utiliser pour ton compte propre et tu fais passer tes plaisirs propres avant de te préoccuper de la survie de ta famille. Tout ça, c'est très grave. Je te donne un autre exemple. Tu souscris un crédit à la consommation qui engage la personne avec laquelle tu vis, alors même que cette personne n'est pas au courant et que
elle va se
retrouver complètement endettée, co-emprunteuse, alors qu'elle n'a rien demandé et qu'elle n'est pas au courant. Bon, bah ça, typiquement, on est dans la violence économique la plus manifeste. Mais il y a une autre forme de violence qui est beaucoup plus sournoise et une autre forme de préjudice, parce que dans les cas que je te décris, il y a un préjudice énorme, il y a un appauvrissement, un endettement, on t'a piqué ton argent et on a souscrit des dettes que tu vas rembourser toi, ça ne va pas.
Ça ressemble à du vol,
c'est de l'appauvrissement, c'est du vol, c'est ça ne va pas. Il y a une autre forme de préjudice qui s'appelle le manque à gagner. Et quand on parle de l'argent des femmes, le problème massif, en fait, ce n'est pas l'argent qu'elles gagnent, quand on regarde bien la réalité. Le problème massif, c'est l'argent qu'elles ne gagnent pas. C'est ça le problème. Et comment ça se fait qu'elles ne gagnent pas d'argent? Eh bien, parce que elles travaillent à temps partiel, elles s'arrêtent de travailler, elles font des carrières avec des interruptions plus longues, parfois des interruptions totales. Elles suivent de temps en temps un mari ou un compagnon ou une compagne en expatriation sans avoir les amortisseurs nécessaires. Elles se sacrifient quand il y a un parent malade, un beau-parent malade parfois, et ce sont elles qui sacrifient en général leur temps, leur travail et donc leur argent. Et puis évidemment, sur toute une durée de vie, elles assument deux tiers des
corvées,
des travaux non rémunérés. Et donc tout ça aboutit à une dépossession de leur temps et donc à une dépossession de leur capacité à travailler davantage, à avoir des carrières complètes, à cotiser aussi davantage. Et donc là, en fait, on ne parle pas d'appauvrissement au sens argent qui est déjà là et qui disparaît. On parle d'un manque à gagner parce que le problème des femmes, encore une fois, ce n'est pas l'argent qu'elles gagnent, c'est l'argent qu'elles ne gagnent pas. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on soit toutes extrêmement fermes, à mon avis, et extrêmement calculatrices. Quand je dis calculatrice, je veux dire qu'il faut qu'on fasse nos comptes et qu'on y pense en défendant nos intérêts, en ayant à cœur de défendre nos intérêts, parce que c'est beaucoup moins visible, en fait, ce manque à gagner, que le fait d'avoir sur son compte en banque, j'exagère, mais d'avoir 100 000 euros qui disparaissent, ça se voit. Être empêché de gagner de l'argent sur une année, sur deux années, sur 10 années, sur 20 années, sur 40 années, eh bien, ça aboutit à notre dépossession, à la dépossession de nos moyens. Malheureusement, c'est très sournois, on ne s'en rend pas compte. Et quand on s'en rend compte, comment on fait pour le prouver ?
Et quand on s'en rend compte, on est soi-même convaincu que c'est de sa faute, en fait, ou qu'on n'est pas talentueux, ou qu'on n'aurait pas su comment faire, ou qu'on ne... Il y a toute une forme aussi de conviction. Enfin, on se convainc personnellement, quand on n'a pas d'argent, qu'on n'est pas capable d'en gagner. Et surtout, quand pendant des années, tu n'en as pas gagné, tu ne te sens pas capable d'en gagner. Je pense qu'on ne se rend même pas compte de ce manque à gagner.
C'est difficile de s'en rendre compte. Alors, il y a une forme de prise de conscience chez certaines qui j'espère, et je pense sincèrement, va se diffuser très très largement dans la société et jusqu'à ce qu'on finisse par convaincre les hommes les plus dans le déni de cette situation, ils ne sont pas tous hein, heureusement, mais qui a une réalité qui est épouvantable en fait, qui relève vraiment qui relève du vol collectif, du hold-up, d'une forme de racket de la société vis-à-vis du genre féminin. Il faut qu'on le dise, il faut qu'on en parle, et pour celles qui en prennent conscience, c'est un travail qui est très long, il faut aussi se sortir de l'idée que c'est de votre faute en fait, c'est pas de votre faute. Alors après, c'est plus facile d'éviter une violence économique que d'en sortir, ça c'est certain. On va peut-être en parler tout à l'heure, mais quand tu es dans une situation où tu subis déjà une violence économique, je te donne un exemple d'une femme qui s'est arrêtée de travailler pour suivre par exemple son mari en expatriation, qui a donc élevé ses enfants, qui n'a quasiment rien à son nom, qui a arrêté de travailler donc et qui reprend des études alors qu'elle doit gérer encore tout le quotidien, toute la famille, etc. Et qui peut avoir finalement dans un rapport de force qui s'est installé, quelqu'un en face d'elle qui lui dit « Écoute, franchement, pourquoi tu t'embêtes à faire tout ça ? Regarde le temps que tu perds, regarde à quel point ça nous pose des problèmes parce que tu n'es pas là deux soirs par semaine. Ça a une incidence, évidemment, sur la vie et sur le confort de la famille. Donc ça, ce sont des petites violences un peu sournoises, ce sont des petits reproches, ce sont des choses qui font que pour reconquérir ton autonomie économique et ta confiance en toi aussi, ta confiance en la capacité à générer de l'argent qui va te permettre d'être autonome, eh bien tu dois résister à tout un tas de petits messages subliminaux, plus ou moins subliminaux d'ailleurs, et résister à tout un tas d'injonctions qui sont encore une fois de la société, mais aussi de ta propre famille. Et parfois, dans ta propre famille, ni tes enfants, ni ton mari ou ta femme ne jouent dans ton équipe, n'ayons pas peur de le dire. Et là, ce sont des violences économiques. Alors, tu as des espèces de petites micro-violences comme ça. Oh là là, quand même, comment on va faire le mardi soir quand tu seras en cours, comment on va s'en sortir, c'est casse-pied. Et puis, de temps en temps, tu as aussi des violences beaucoup plus difficile à accepter, du style, de toute façon, pourquoi tu fais ça, t'es tellement nul, ça fait 15 ans que t'as rien foutu, et là on est dans une violence psychologique,
voilà, un harcèlement moral
très, très forte, de la destruction, c'est du harcèlement, sauf que malheureusement, dans l'immense majorité des cas, la violence économique conjugale, elle est accompagnée d'autres formes de violence, et donc tu perds ta confiance et tu la perds d'autant plus que en face de toi, tu as quelqu'un qui peut passer son temps à te dévaloriser. Et donc, c'est très, très violent.
Moins gagner ou rien gagner, ça s'accompagne toujours d'un déficit de respect. Je l'avais observé auprès de mes propres parents. Ma mère était infantilisée, mise dans la situation de quelqu'un qui n'est pas majeur, en fait, parce qu'elle ne gagnait pas autant que lui. Et donc, tous les sacrifices qu'elle a fait s'accompagnaient de exactement ce que tu décris, hein, du harcèlement moral. Elle n'a pas été battue. Il y a aussi des femmes qui subissent des violences économiques et des violences physiques, très, très claires, très nettes. Là aussi, tu disais, hein, les chiffres sont éloquents. Hein, c'est vraiment majoritaire. C'est une majorité. Dans la majorité des cas, on a plusieurs formes de violence qui se combinent parce que l'argent en fait reflète quelque chose ou traduit autre chose et on s'en sort pas indemne. Je voudrais qu'on parle un peu des banques. On s'y intéresse de plus en plus, de cette traduction concrète, le fait d'avoir un compte à son nom sur lequel est versé son salaire quand on a un salaire plutôt qu'un compte uniquement un compte joint, etc. Finalement, tout ça, c'est un sujet très récent parce que ça fait que depuis 1965 qu'on a le droit d'ouvrir un compte sans l'autorisation du mari quand on est marié. Avant, on avait un statut de mineur. Alors, je voudrais savoir s'il y a encore beaucoup de mineurs bancaires. S'il y a des actions concrètes que tu peux recommander de ce point de vue-là, à quoi il faut faire attention en matière purement bancaire. Et puis, dernière petite question liée aux banques, s'il y a aussi des avancées ou des évolutions en la matière qui font que les banques sont un petit peu plus les alliées des femmes.
Alors, que les banques soient un peu plus les alliées des femmes, je pense que ça va être un peu long. Il y a quand même une certaine prise de conscience et il y a plusieurs établissements qui sont en train de travailler vraiment sur le sujet. Je pense que c'est une nécessité, hein. Il ne faut pas se leurrer. Si tu passes pour la dernière boîte à se préoccuper du sujet, tu vas perdre des parts de marché, hein. Donc, pas de mystère, il n'y a pas de miracle. Bon, il se trouve qu'aussi, dans les banques, tu as beaucoup de femmes qui travaillent dans les banques et qui ont été en capacité d'alerter sur le sujet. Et il y a plusieurs groupes de réflexion, des formations qui sont prévues, etc. Il y a pas mal d'établissements quand même qui travaillent sur le sujet, et c'est une bonne chose. La première chose qui devrait avoir cours, c'est de ne jamais accepter un rendez-vous pour parler d'un prêt immobilier, pour parler d'une étape importante, pour parler d'un placement important qui concerne l'argent du couple, sans que les deux membres du couple soient là. Ça, c'est la priorité. Après, t'as des violences plus anecdotiques, toutes ces luttes que certaines femmes mettent en œuvre pour dire « Bonjour, est-ce que c'est possible que j'ai mon nom de naissance sur le compte au lieu d'avoir le nom de mon mari que je n'ai jamais porté ?» Enfin, des choses comme ça. Tu te dis... Certaines personnes te disent « Non, mais ça va, encore une fois, il y a des vrais sujets. » Bah, en fait, le vrai sujet, c'est de commencer m'appeler par mon nom et pas penser que je suis juste une pièce rapportée
et un appendice
de mon mari ou de ma femme. Ça ne va pas. Mais la première des choses, et ça, c'est valable pour les banquiers, les banquières, c'est valable aussi pour les notaires, ça devrait être valable pour les conseillers en gestion de patrimoine. Et en même temps, je te dis ça, moi, je reçois beaucoup de femmes seules alors qu'elles sont mariées. C'est valable pour les banquiers, c'est valable pour les notaires, c'est valable certaines fois pour les experts comptables. Quand il y a un sujet qui concerne, et c'est même valable pour certains conseillers en gestion de patrimoine, quand il y a un sujet qui concerne les deux membres du couple, eh bien, il faut que les deux membres du couple soient là pour signer. Et pas seulement pour signer, parce que quand on te dit « Viens, signe là, j'ai juste besoin de ta signature », je vais faire une alerte.
On peut te faire avaler n'importe quoi.
Non, n'allez pas signer un document, non seulement sans l'avoir lu, mais sans le comprendre. Moi, sur les histoires de confiance en soi, j'ai encore beaucoup de témoignages de femmes qui me disent « Mais j'ose pas poser des questions. » Mais en fait, quand vous êtes partie prenante d'une opération, vous avez une capacité juridique, vous êtes des personnes à part entière, donc vous êtes autorisées à poser toutes les questions que vous voulez. Et si vous ne comprenez pas la réponse, c'est que le professionnel ou la professionnelle que vous avez en face de vous n'a pas été assez explicite. Donc vous reposez la question et vous demandez une explication formulée différemment jusqu'à ce que vous compreniez et que vous soyez convaincu. Et par ailleurs, quand il y a des papiers importants à signer, normalement, il devrait y avoir un délai de réflexion. Quand tu signes pour un crédit immobilier, par exemple, tu as toujours un délai de 15 jours entre le moment où tu reçois ton offre et le moment où tu dois la signer. Eh bien, utilisez ce délai parce qu'effectivement, on peut vous expliquer quelque chose. Le lendemain, vous allez vous dire « Mais pourquoi c'est comme ça ?» etc. Il faut utiliser ce temps pour maîtriser la complexité des opérations et pour comprendre les incidences et pour pouvoir revenir en deuxième, troisième, quatrième jour, cinquième jour pour poser des questions, reposer des questions et obtenir les explications nécessaires. Et je vous rappelle aussi que avoir la capacité juridique, ça peut aussi vouloir dire « Désolé, je ne signe pas ».
Il me semble que depuis quelque temps, les entreprises, les organisations sont. On attend d'elles qu'elles versent les salaires des individus sur un compte, individuel et plus sur un compte joint. Qu'en est-il ?
Alors, moi, ce que j'ai compris des dispositions de la loi Rixin de 2020, enfin qui est entrée en vigueur début 2022, c'est qu'il doit y avoir ton nom sur le compte, mais que ça peut très bien être un compte joint sur lequel il y a ton nom. J'espère que je ne dis pas de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Il faut savoir que la très très grande majorité des couples fonctionne exclusivement et uniquement avec un compte joint. En revanche, ce qui n'est plus possible, c'est que tu travailles et que l'argent soit versé sur le compte de ton mari ou de ton père. Ça n'est plus possible. Mais ça suppose quand même que si tu verses l'argent sur le compte joint ou si tu le fais verser sur le compte joint, eh bien, tu comprennes ce qui se passe et la façon dont l'argent est dépensé, et que tu sois d'accord avec la personne avec laquelle tu vis sur la façon dont vous dépensez l'argent, dont vous l'épargnez, dont vous répartissez un peu toutes les masses, pour éviter un certain nombre de surprises.
Ça, l'arrangement des couples, c'est un sujet dont on parle là aussi depuis quelques temps. Il y a plusieurs modèles. Il y a ce modèle pot commun, on verse tout sur le compte joint et puis on verra bien ce qui se passe, qui est, tu dis, la grande majorité des couples, hein, ou plus qu'une moitié. Mmh. Après, tu as le modèle chacun dans son coin et on paye chacun la moitié, ce qui est évidemment très dur quand il y a des grosses inégalités au sein du couple, parce que la personne la plus pauvre est appauvrie. Et puis tu as un modèle prorata, chacun dans son coin et on paye au prorata de ses revenus. Est-ce qu'il en existe d'autres? Et puis que peux-tu dire des violences économiques par rapport à chacun de ces trois modèles?
Alors la première chose que je voudrais dire, et c'est une alerte qui n'est pas liée aux violences économiques, c'est que tu peux avoir une philosophie de dire on va tout mettre en commun, ou on va mettre en commun les dépenses communes et faire un prorata, etc. Et avoir, sans l'avoir compris, un régime matrimonial qui ne reflète pas du tout cette réalité. Donc là, ça c'est pas tant une violence qu'un problème d'ignorance et de manque d'information, et c'est aussi un problème, hein. Je te donne un exemple. Tu peux dire on met tout en commun, on paye tout ensemble, on a tout, on met 90% de nos comptes personnels sur un compte joint, etc., etc. Eh bien, si tu vis en union libre, ou si tu vis dans un mariage en séparation de biens, ou dans un pax en séparation de biens, t'as beau tout mettre en commun, en réalité, c'est la loi dit, c'est un peu chacun pour soi, sauf pour quelques petits sujets, notamment les dépenses du ménage. Mais si en mettant tout en commun, tu contribues par exemple à payer le crédit immobilier qu'a souscrit la personne avec laquelle tu vis avant que tu t'installes chez elle. Bah, t'as beau tout mettre en commun, si t'es en union libre, c'est une situation qu'on rencontre malheureusement assez fréquemment, si t'es en union libre, bon alors effectivement, tu participes aux frais, etc. Toi, t'as l'impression de faire quelque chose de légitime, puisque tu es logé, tu payes pas, etc. Mais en fait,
in fine, l'appartement, il t'appartient pas.
Tu participes au remboursement d'un crédit immobilier sur lequel tu n'as aucun droit. Donc, c'est une très belle idée de tout mettre en commun. Mais en fait, avant de tout mettre en commun, il faut comprendre si réellement tout est en commun. Si par exemple, tu mets tout en commun et que tu souscris un crédit immobilier à deux, avec les deux noms sur le crédit, les deux noms sur l'acte de vente, d'achat, etc., là, c'est plus conforme. Mais la réalité, c'est que on est dans une forme de séparation de biens, et donc que t'as beau tout mettre en commun, à la sortie, c'est un peu chacun pour soi. Donc, dans ces cas-là, évidemment, il faut absolument avoir son nom sur les contrats, son nom sur les crédits, son nom sur les actes de vente, etc., etc. Dans tous les cas, il faut avoir son nom sur les actes et sur les crédits. Je te donne un exemple inverse de gens qui font les choses de façon très séparée, qui ont, ça se voit aussi, chacun son compte, qui se prêtent de l'argent de temps en temps quand l'un est en difficulté, a un petit creux d'activité ou des petites choses comme ça, ou un besoin de trésorerie pour faire des travaux dans un appart à lui, ou enfin, des choses, je l'ai vu, et puis qui se rendent l'argent qu'ils se doivent, qui font vraiment une petite comptabilité en disant, voilà, on a mis les choses en commun pour la maison, mais sur le reste, on se prête de l'argent, on s'en rembourse, on garde nos sous chacun de notre côté. Et puis en fait, ces gens-là sont mariés sous le régime de la communauté, qui est le régime légal, celui qu'on a quand on fait pas de contrat de mariage. Là, c'est pas forcément une forme de violence, mais ça implique de comprendre que malheureusement, si dans ce même couple, il y en a un qui épargne beaucoup parce qu'il fait des efforts financiers, parce qu'il se prive, et l'autre qui dépense beaucoup parce que il a envie de dépenser plus et voilà, et qu'ils n'ont pas tout à fait la même façon d'appréhender les dépenses. Il y en a un qui fait des efforts, l'autre qui n'en fait pas, clairement. Bien, en réalité, tout ça ne sert à rien. Les efforts de l'un sont totalement partagés avec l'autre. Et ben ça, c'est vécu de façon très violente par les personnes qui le découvrent, parce qu'elles n'ont pas compris que leur organisation financière n'avait rien à voir avec ce que disait la loi. Et la loi dit, en communauté, tout l'argent qui est gagné pendant le mariage, à l'exception des sommes qui sont reçues par donation et succession, eh bien, toutes ces sommes-là, qui est gagnée et épargnée, sont communes. Donc s'il y en a un qui épargne et l'autre pas du tout, bah, c'est pas grave pour celui qui épargne pas, puisqu'il récupérera de toute façon la moitié des efforts de l'autre. À l'inverse, quand t'es celui ou celle qui a fait les efforts, c'est un peu contrariant. Et donc...
c'est le vieux sujet de la cigale et de la fourmi.
Exactement. Mais sauf que là, c'est la fourmi qui paye. Et donc, c'est très très violent quand on le découvre. Donc, j'ai pas très envie de te dire qu'il y a une forme d'organisation, malheureusement, qui est moins violente ou moins propice aux violences que les autres. Les trois peuvent être violentes, les trois peuvent être sereines. Simplement, il faudrait bien comprendre ce qu'on fait et vérifier que tout ça est conforme à ce que dit la loi en fonction de notre régime matrimonial, et de ne pas entretenir ou alimenter quelque chose qu'on pense être dans la communauté et qui en réalité est dans une communauté fictive. Et ça, ça marche pour l'argent, ça marche aussi pour le temps qu'on donne. Voilà, le temps qu'on donne, on ne le récupère jamais. On ne récupérera jamais le manque à gagner enregistré. On ne le récupérera jamais sous forme de compensation financière. C'est mort. Donc, voilà. Je suis désolée parce que j'ai pas complètement répondu à ta question, mais c'est important de vraiment être conscient et consciente de l'organisation financière qu'on a adoptée et de la remettre régulièrement en question, parce que dans un couple, il y a des situations qui changent. On peut commencer à bosser et à s'installer ensemble à un moment où les deux travaillent avec un très bon revenu. Et puis, il y a des choses qui peuvent se déséquilibrer beaucoup. On sait très bien qu'au moment de la naissance d'un enfant, les femmes sont complètement freinées dans leur carrière, tandis que les hommes ont plutôt tendance à avoir des promotions. On s'installe dans quelque chose où il y a un déséquilibre des revenus. Après, ça peut être l'inverse. Tu peux avoir, toi, un saut de carrière et la personne avec laquelle tu vis un gros trou d'air, un gros accident professionnel et donc quelques années très très difficiles. Il peut y en avoir un qui tombe malade tandis que l'autre continue à gagner sa vie. Enfin, l'équilibre financier du couple, il change constamment. Et donc à chaque fois qu'il change, du côté des recettes, donc des revenus, comme du côté des dépenses, il faut reconsidérer la situation. Et parfois, il faudrait penser aussi à changer de régime matrimonial. Ça veut dire à se dire, ça fait 10 ans qu'on vit en union libre, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à reconsidérer les choses et à se paxer, à se dire, on est marié en séparation de biens, est-ce que ce serait pas plus malin, compte tenu du déséquilibre qu'on a créé, que les deux profitent à part égale de la richesse que l'un enregistre parce que l'autre reste plus à la maison. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à passer en communauté ? Est-ce qu'à l'inverse, la communauté est toujours adaptée ? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à opter pour la séparation de biens ? Ça, en général, il y a beaucoup d'envie de le faire, et puis souvent, on recule parce que ça représente souvent un coût. Tout ça, ça peut se remettre en question et ça peut se changer. Et puis, tout simplement, t'as aussi l'étape de se dire, ça fait 15 ans qu'on est paxé dans un pax qu'on appelle un pax séparatiste, où tout est séparé. Et puis, en fait, on pense à un autre sujet, qui est le sujet de la retraite, où là, il n'y a rien à voir avec le déséquilibre de l'un et de l'autre, mais le simple fait de se marier va changer quelque chose de très important. C'est que s'il y en a un des deux qui disparaît,
tu as droit à une pension de réversion.
Exactement, à une pension de réversion, alors que si tu es paxé, tu n'as pas de droit sur les cotisations de la personne avec laquelle tu vis. Et donc, ça, c'est une considération purement financière, mais qui est une question qui mérite d'être posée à un moment. Et donc, en fait, dans une vie, quand on construit ensemble et qu'on reste ensemble, c'est pas toujours le cas, c'est bien régulièrement de réinterroger un petit peu les modèles qu'on a choisis.
Il faut qu'on parle des séparations, évidemment,
bien sûr.
Parce que c'est quand même un moment clé. Il y a beaucoup de violences économiques qui sont invisibles jusqu'à la séparation. Ouais. Et là, tout d'un coup, c'est comme si tout explosait. Je crois que le chiffre, c'est qu'une femme sur 5, après une séparation, tombe dans la pauvreté, tombe sous le seuil de la pauvreté. Et parmi celles qui ne tombent pas, il y en a beaucoup qui ont du mal à joindre les deux bouts et sont plus ou moins précaires. Dans quelle mesure est-ce que ça, c'est le fruit des violences économiques? Pourquoi c'est un moment décisif, la séparation, divorce ou simplement séparation?
La séparation, en fait, c'est un moment où, justement, tu vas faire les comptes et où tu vas comprendre que ce que tu pensais commun, enfin, en tout cas, où ça peut arriver, tu peux comprendre que ce que tu pensais être commun, en réalité, est parfaitement séparé. Et donc, c'est le moment où, s'il n'y a pas ton nom sur les actes de crédit, sur les actes notariés, très souvent, la plus grosse claque, elle vient du paiement de la maison et du fait d'avoir des parts ou pas dans la maison. Évidemment qu'elle vient de là parce que le logement, c'est quand même le budget numéro un, le poste numéro un dans le budget. Et donc, c'est là qu'en fait, on lève le voile sur qui a quoi, en réalité. Et c'est là qu'on comprend que très souvent, celui des deux qui trinque, dans la majorité des cas, c'est la femme, dans un couple hétéronormé. Et donc, c'est ça qui ne va pas, en fait, parce que c'est très injuste, parce qu'en réalité, c'est là qu'on comprend que tout le temps qu'elle a passé à s'occuper des enfants le mercredi, c'est un temps pendant lequel elle n'a pas gagné d'argent, donc pendant lequel elle a moins épargné sur des comptes à son nom, que c'est un temps pendant lequel elle a moins gagné d'argent et donc moins remboursé de parts de crédit, donc elle a moins de parts sur la maison, etc., etc., c'est le moment où on voit réellement les choses et où on comprend que souvent on a alimenté une communauté fictive avec du temps, avec de l'argent. Donc je te passe tous les sujets de ceinture de judo, de la fameuse théorie du pot de yaourt que comme l'appelle Titiou Lecoq, où toi tu as payé le quotidien pendant que la personne avec laquelle tu vis a financé les investissements qui sont à son nom. C'est à ce moment-là qu'on voit la réalité des choses. Et en fait, comme très souvent, et je ne leur jette pas du tout la pierre, j'essaye de les alerter, comme très souvent les femmes n'ont pas pensé à ce sujet-là, ou parfois elles l'ont très bien compris, mais elles n'ont pas réussi à alerter leur conjoint ou à se faire entendre de leur conjoint ou de leur partenaire sur ce sujet-là, la réalité et le résultat est affolant, précarisant, appauvrissant et tous les mots moches qu'on n'a pas envie d'entendre, et tout ça se retombe très souvent sur la tête des femmes. Alors oui, on peut parler de violence économique parce que très souvent il y a des femmes qui ont compris que leur organisation les pénalisait beaucoup, mais qu'il y a des situations dans lesquelles, et beaucoup de situations dans lesquelles leur mari, leur partenaire, leur femme n'a pas voulu ouvrir le dossier. Et quelqu'un qui ne veut pas ouvrir le dossier des finances dans un couple est quelqu'un qui n'a pas intérêt à ouvrir le dossier. Il faut arrêter de se réfugier derrière des phrases comme « mais oui, mais moi c'était trop la galère quand j'étais petit, chez moi on n'en parlait pas, c'est hyper tabou ». Non, si ça reste tabou, la réalité c'est que la personne pour qui c'est tabou est une personne qui n'a pas intérêt à ouvrir le dossier et qui n'a pas intérêt à en parler. Donc, et là-dessus, j'ai une position très ferme qui consiste à dire « Mesdames, n'ayez pas peur de pourrir l'ambiance. Il en va de votre sécurité économique. » Et j'ajoute qu'une personne qui vit avec vous et qui ne se préoccupe pas de votre sécurité économique est une personne qui ne vous aime pas. Voilà, je le dis très fermement. Mais tu veux pas ouvrir le dossier et tu veux pas te préoccuper de ma sécurité économique en dehors du couple, parce qu'il y a plein d'hommes qui disent « mais oui, mais tant qu'on est ensemble, tout va bien ». Mais oui, mais le problème, c'est pas tant qu'on est ensemble. Le problème, c'est le jour où j'ai envie de partir parce que je te supporte plus. Et ça fait partie du quotidien. Ou le problème, c'est le jour où toi, tu pars parce que tu me supportes plus. Quelle est ma sécurité économique dans ces cas-là? Malheureusement, elle est souvent pas bonne. Et si la personne avec laquelle tu vis ne veut pas ouvrir le dossier, c'est un gros problème, et c'est qu'elle n'y a pas intérêt, encore une fois. J'ajoute, si je peux me permettre, que moi, j'aime bien casser un peu plus l'ambiance en suggérant à un certain nombre de femmes, et même à toutes les femmes qui sont en couple, de faire leur crash test financier. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si demain je pars? Qu'est-ce qui se passe si demain mon partenaire ou mon mari me quitte? Et qu'est-ce qui se passe si demain mon partenaire ou mon mari ou ma femme meurt brutalement? Qu'est-ce qui se passe? Alors, dans le crash test financier, il y a des petites choses extrêmement ponctuelles et précises qui sont est-ce que tu as un compte à ton nom? Parce que de toute façon, le jour où la personne avec laquelle tu vis meurt, on va geler tes comptes joints. Donc, tu pourras pas remplir le caddie du supermarché. Ça va de trucs primaires et basiques comme ça. Est-ce que tu as des comptes à ton nom avec un peu d'épargne en attendant pour faire face à ce genre de situation? Est-ce que tu as tes codes de connexion aussi des impôts? Est-ce que tu sais ouvrir l'ordinateur de la personne avec laquelle tu vis pour avoir accès à un certain nombre d'infos? Est-ce que tu sais l'endroit où il range ses codes? Ça n'est pas une incitation à fouiller dans les ordinateurs de ta moitié, mais est-ce que tu sais retrouver tous ces trucs-là? Est-ce que tu sais où tout ça se trouve? Et puis après, il y a des choses beaucoup plus profonde, c'est si vous êtes paxé, est-ce que vous avez fait des testaments pour vous transmettre les choses, parce que sinon, bah, par défaut, sans testament, un partenaire de pax, même s'il vit depuis 30 ans avec la personne avec laquelle il est paxé, n'a droit strictement à rien sur la succession. Est-ce que justement tu as réussi à faire la part des choses entre ce qui t'appartient à toi et ce qui lui appartient à lui ou à elle? Est-ce que, donc en gros, après le crash test, dans quel état es-tu? Dans quel état financier es-tu?
Et après avoir fait simplement le crash test, comment tu te sens? C'est bien, c'est un bon signe s'il te reste beaucoup de choses à faire. C'est vrai que là, en t'écoutant, je fais...
Oui, alors il y a beaucoup de questions dans le crash test financier et très souvent, on n'a pas bon à tout, hein. Mais je pense
qu'on a déjà quelques bonnes réponses, on est sur la bonne voie. Voilà. Mais c'est bien de revoir la liste. Je mettrai le lien parce que tu avais écrit une newsletter sur le sujet. Je pense qu'on peut la retrouver en ligne.
Oui, tout
donc
à fait.
J'ajouterai le lien dans la newsletter. Parlons un petit peu de fiscalité. La fiscalité, c'est un édifice qui soutient une partie des violences économiques. Quand on parle de conjugalité, la notion même de quotient conjugal qui encourage quand même des inégalités de revenus dans un foyer qui déclare ensemble ses impôts, c'est quelque chose qui paraît aberrant dans d'autres pays parce que il n'y a plus beaucoup de pays occidentaux qui ont gardé le quotient conjugal. Il y a la France et l'Allemagne, hein, je sais qu'il n'y en a plus au Royaume-Uni, il n'y en a plus dans plein d'autres pays. L'Allemagne, c'est encore très fort aussi. Hein. France et Allemagne, c'est...
Ça m'étonne, voilà. Tiens.
Pas très... Oui. Donc il y a ça, il y a ce sujet de la conjugalité, il y a le sujet aussi de la responsabilité par rapport aux dettes fiscales qui sont considérées comme étant communes. Si tu as là aussi quelques messages, c'est pas des messages individuels nécessairement, mais quelques messages sur le sujet des impôts et de la fiscalité, vas-y Héloïse.
Alors, le message, je fais clairement partie des personnes qui réclament à corps et à cri l'abandon pur et simple du quotient conjugal. Aujourd'hui, on te dit qu'il y a une façon de contourner le problème qui est d'opter pour un taux individualisé l'un et l'autre ont des revenus très différents.
Qui, depuis la loi Rixin, est devenu le taux par défaut.
Ça sera le cas
bientôt.
Partir de 2025.
D'accord. Donc ça, c'est quand même une avancée.
C'est une avancée et je pense qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de travail d'éducation financière et fiscale des hommes dans la prochaine année. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas encore compris ce qui allait leur arriver et qui n'ont pas encore mesuré à quel point le quotient conjugal était un privilège pour les hommes qui, dans 80% des cas, gagnent plus. Et donc, ils trouvent ça parfaitement normal et qui ne voient pas où est le problème. Donc, je fais partie des gens qui vraiment militent pour qu'on arrête avec ce quotient conjugal et qui militent pour dire « c'est pas parce que vous avez un taux individualisé que ça résout le problème ». Parce que le taux individualisé, c'est-à-dire chacun son taux, ne change pas l'imposition globale du couple. Il change juste la façon dont est réparti le paiement de l'impôt. Mais quand on a le quotient conjugal, quand on est un couple qui fait une déclaration commune, eh bien, si le petit salaire des deux veut gagner plus d'argent en reprenant un boulot à plein temps, en trouvant un boulot mieux payé, etc., et qu'il vit avec quelqu'un qui gagne très bien sa vie, il faut savoir que ses revenus supplémentaires vont être extrêmement taxés. Ils vont être taxés comme les revenus les plus élevés de la personne avec laquelle il ou elle vit. Ça veut dire que pour gagner 1000 euros de plus, par exemple, on va être taxé plein pot. Alors que si on était dans un système où il n'y a pas le quotient conjugal, quelqu'un qui ne gagne pas beaucoup d'argent et qui gagne 1000 euros de plus ne sera pas beaucoup taxé sur les 1000 euros supplémentaires. Ce système-là, il y a beaucoup d'économistes qui ont travaillé dessus. Je pense notamment à Hélène Périvier qui explique tout ça très très bien. Ça pénalise le travail féminin. En fait, c'est une incitation à rester à la maison et à travailler moins en fait. Et donc à entretenir sa précarité économique.
C'est
une prime à l'inégalité. Oui, exactement. Donc ça ne va pas. Donc je fais partie des personnes qui vraiment pensent qu'il faudrait torpiller ce quotient conjugal et l'envoyer le plus loin possible avec un certain nombre de vestiges du patriarcat. En attendant qu'on torpille le quotient conjugal et en attendant qu'on torpille la solidarité fiscale qui est un autre problème, qui est le fait que tu peux avoir à payer les impôts pour quelqu'un dont tu es divorcé mais qui n'a pas acquitté sa dette, qui a triché parfois, tu peux avoir à payer les impôts, les pénalités, toutes ces choses-là parce que tout simplement tu étais marié avec lui ou avec elle et que tu es solidaire et donc on se retrouve avec des situations épouvantables fréquemment. Et où des femmes payent pour l'inconséquence de leur mari. Disons les choses, hein, ça peut évidemment être dans l'autre sens, mais majoritairement, il se trouve que ce sont des femmes qui payent. Ce sujet-là de la solidarité fiscale, c'est pareil. Il y a pas mal de sujets dans l'air du temps. Il y a des réflexions des travaux à l'Assemblée nationale. Peut-être qu'on va réussir à en venir à bout, mais en attendant qu'on ait torpillé la solidarité fiscale, en attendant qu'on ait torpillé le quotient conjugal, moi, j'ai un message à faire passer qui est regardez votre feuille d'imposition tous les ans. Regardez votre déclaration. Regardez-la. Ne vous contentez pas de la signer parce qu'il y a beaucoup d'erreurs dans les déclarations pré-remplies pour celles et ceux qui sont salariés ou fonctionnaires. Et ne vous contentez pas de ce qui a été pré-rempli. Vérifiez. Alors d'abord, quand on regarde la déclaration d'impôt, il y a les déclarations de revenus, il y a beaucoup d'informations. On connaît, normalement, les revenus de la personne avec laquelle on vit. Parfois, vous avez des gens qui travaillent dans une boîte où il y a des bonus, des choses un peu irrégulières, des indépendants qui savent pas très bien leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices. Ça, normalement, c'est marqué dans la déclaration d'impôt. Je vais plus loin. Allez mettre le nez dans les résultats comptables de la personne avec laquelle vous vivez. Si vous vivez avec un indépendant ou une indépendante, avec quelqu'un qui a une boîte, regardez les résultats et le salaire ou la rémunération que il ou elle s'est versé. Regardez tout ça. D'abord, ça vous donne plein d'informations. Ensuite, ça va vous permettre de pointer certaines incohérences. Quand il y a un chiffre d'affaires qui dégringole, vous serez au courant. Quand il y a un bénéfice qui dégringole, on peut avoir toujours le même volume d'affaires et avoir beaucoup plus de frais, eh bien, vous serez au courant aussi. Et en fait, quand vous vivez avec quelqu'un qui gagne sa vie avec une entreprise, avec une activité indépendante, eh bien, il faut que vous compreniez le modèle économique de cette activité et que vous soyez en mesure de sentir ou de comprendre quand il y a quelque chose qui ne va pas, parce que vous ne pouvez pas découvrir ces choses-là au moment où le fisc va venir vous réclamer 4 ans après votre divorce de l'argent dont vous ne savez pas pourquoi on vous le réclame. C'est trop dommage. Donc, dans tous les cas, en attendant qu'on soit complètement séparés sur nos déclarations de revenus et sur le paiement de notre impôt, eh bien, dans la mesure où il y a des interactions entre l'impôt de l'un et l'impôt de l'autre, l'impôt de l'une et l'impôt de l'autre, les revenus de l'un et les revenus de l'autre,
il
faut que tout le monde connaisse et comprenne les informations. Et c'est pas facile, parce que quand t'es salarié, t'as pas envie de te plonger dans les comptes de la boîte de ton mec. C'est pas rigolo, c'est pas marrant la compta, hein. C'est vital, mais c'est pas du tout marrant. Et puis, parfois, la personne avec laquelle tu vis n'a pas du tout envie que tu viennes mettre ton nez dans les comptes. Eh bien, en fait, si, parce qu'il y a des incidences. Et dans la mesure où il y a des incidences, c'est normal d'être en transparence et de se parler et de connaître la réalité des choses.
Message est très clair. On a beaucoup parlé des violences au sein des couples hétéronormés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas au sein des couples de même sexe. Ça n'obéit pas à une ligne de faille purement genrée, évidemment. Mais il n'en demeure pas moins que énormément de couples de personnes du même sexe, on retrouve aussi des violences mécaniques, des violences économiques, et puis les mêmes mécaniques que tu as décrites à propos des couples hétéronormés. Est-ce que tu me confirmes, je sais qu'on n'a pas tant de données là-dessus, même s'il y a quelques études qui sortent par-ci, par-là, parfois plutôt dans les pays étrangers?
Alors, j'en ai pas beaucoup de données sur le sujet. En revanche, j'ai mon poste d'observation à mon bureau, en fait, de mes consultations, puis les retours que je peux avoir de ma communauté. Et en réalité, le rapport de force financier, il existe dans beaucoup de couples de même sexe, de personnes de même sexe aussi, parce qu'à partir du moment où tu es deux, eh bien, il y a systématiquement quand même une forme d'équilibre, de comparaison, c'est très fréquent de trouver des situations dans lesquelles, ne serait-ce que sur le plan des revenus, où il y en a un qui gagne beaucoup plus que l'autre, ou une qui gagne beaucoup plus que l'autre, tu peux avoir d'autres sujets qui sont pas liés aux revenus, qui sont la façon d'investir. Tu peux avoir... moi, je reçois pas mal de couples de femmes. Tu peux avoir une femme qui a aucun sujet avec le risque, aucune préoccupation et qui peut mettre son argent pleine balle sur des investissements un peu risqués et... voilà, et l'autre qui est complètement flippé de ça, donc ça peut être aussi une forme de violence quand il n'y a pas de consultation et quand il n'y a pas d'accord et de terrain d'entente sur la façon dont on expose son argent au risque, parce que soit on est dans une situation où tout est très séparé, mais on fait quand même des déclarations fiscales communes, il y a quand même des interactions. Soit on a déjà beaucoup de choses en commun et ça peut ne pas plaire à une personne que l'autre investisse de façon très risquée. Ça peut mettre la deuxième personne très très mal à l'aise. Et imposer une forme d'investissement à l'autre, ça fait aussi partie des violences économiques. Et ça, on le retrouve.
Et puis, on a les mêmes sujets. C'est-à-dire, on a les mêmes sujets du travail gratuit, du manque à gagner. Oui. Dès qu'il y a une forme de spécialisation ou un rapport où l'un est quand même plus dominant économiquement parlant, on a en fait les mêmes sujets. Donc, finalement, il n'y a pas tant à séparer les choses entre couples hétéronormés et couples de personnes de même sexe. Mais alors, il y a quand même un type de foyer dont on n'a pas parlé. C'est les personnes qui vivent seules. Et on s'intéresse un petit peu plus aux femmes. Donc, les femmes qui vivent seules, elles sont très nombreuses. D'ailleurs, jeunes ou bien moins jeunes, elles sont très nombreuses à vivre seules. J'ai récemment beaucoup aimé le livre de Marie Coq intitulé « Vieille fille », qui est un très très joli essai. Elles n'ont pas de violence conjugale, de violence économique conjugale. Pourtant, elles subissent aussi des formes de violence économique, si on peut les appeler ainsi, dans le sens où elles payent plein pot pour tout, elles n'ont aucune économie d'échelle. La consommation n'est jamais prévue pour des personnes qui vivent seules. Peut-être pour le mot de la fin, voilà quelques mots pour ces personnes seules très nombreuses dont on n'a pas parlé à propos des violences économiques. Est-ce qu'on a fait une erreur de ne pas parler d'elles?
Je pense que c'est une erreur aussi de ne pas en parler parce que effectivement, il y a tous ces sujets de consommation. Quand tu voyages seule, tu es obligé de prendre une chambre double. Enfin, il y a plein de sujets sur lesquels tu es extrêmement pénalisé. J'ajouterais une autre forme de pénalité et une autre forme de violence et qui est pour le coup qui est un risque de violence. Et là, c'est pareil. Je fais une je fais une grosse mise en garde. Quand on se retrouve seul dans un moment où il faut négocier un crédit immobilier, par exemple, quand on se retrouve seul dans un moment où il faut relire des actes d'achat d'un appartement. Je parle beaucoup de l'immobilier parce que c'est ce qui pèse le plus lourd dans les patrimoines. Quand on se retrouve seul, malheureusement, dans des moments où il faut éplucher des successions et gérer des successions et lire des déclarations de succession. Quand on se retrouve seul dans ces moments-là, on est infiniment plus vulnérable. Pourquoi on est plus vulnérable? Parce que souvent, le moment où tu t'achètes un appart, même si c'est un moment plutôt de construction et plutôt enthousiasmant, c'est aussi un moment un peu vertigineux. Tu signes en bas d'un truc à 6 chiffres. Enfin, ça peut être assez impressionnant. Et quand t'es tout seul face à un professionnel, parfois t'as un peu de mal à t'affirmer. Et si en face de toi on comprend que c'est comme ça, que tu t'affirmes difficilement, tu peux avoir des gens qui en profitent un peu pour
ça. Syndrome du garagiste, que tu connais rien au moteur, on va te faire payer plein pot.
Voilà. Donc il y a ce sujet-là. Et puis je reprends l'exemple des successions. Les successions, c'est un moment où t'es extrêmement vulnérable quand t'as perdu un parent, parfois un mari, une femme, parfois un enfant. De toute façon, t'es fracassé, tu vas pas bien, et très souvent, tu peux être tenté soit d'accorder une hyper confiance à la personne qui va s'occuper de ton dossier, soit de dire je comprends pas, de dire je m'en fous parce que tu vas pas bien, et en fait, c'est des moments où tu es plus vulnérable. Malheureusement, quand on est seul dans des dossiers un peu complexes, et on va pas se mentir, un achat immobilier, un crédit immobilier, une succession, ce sont des dossiers complexes dans le sens où on les maîtrise pas, on n'a pas le nez dedans tout le temps, il y a des choses qui changent tout le temps, ça évolue. On sait pas, il y a plein de petites choses qu'on connaît pas. Quand on est seul dans un dossier complexe, on n'a pas le deuxième œil qui permet de dire, mais je comprends pas pourquoi là il y a ça, pourquoi on n'a pas ce deuxième regard, et puis face aux professionnels, on est seul et donc on est plus vulnérable et plus à même d'être victime un peu du syndrome du garagiste. J'ai envie de dire que quand on est seul, ça serait vraiment bien de pouvoir se faire accompagner dans ces moments-là par pas nécessairement des professionnels, mais une copine ou un copain, un collègue de travail, un parent, un frère ou une sœur, tout simplement pour avoir ce deuxième regard. Et je dis ça, je le dis pas en l'air, j'ai déjà vu des situations dans lesquelles il y avait de grosses erreurs. Alors des erreurs, il y en a souvent, toujours dans les gros dossiers. Je vais redire quelque chose que je dis souvent. Personne ne connaît ton dossier aussi bien que toi. Donc même le professionnel le plus scrupuleux, ça peut lui arriver de faire des erreurs. Il faut tout relire. Le problème, c'est que quand tu relis tout et que tu es dans une période où tu es complètement fracassé parce que tu viens de perdre un être cher, etc., tu n'as pas forcément la vigilance qu'il faut. Et c'est bien dans ces cas-là de demander à quelqu'un de t'aider à être vigilant ou vigilante, et donc d'avoir un soutien amical, familial, professionnel, pour vérifier un peu les choses et avoir la deuxième alerte. En fait, je fais souvent un parallèle avec les rendez-vous chez le médecin quand t'as un truc grave. Très souvent des récits de couples qui vont chez le médecin après une maladie vraiment trash et qui ressortent chacun, ils ont absolument pas compris la même chose. C'est bien d'avoir cette deuxième personne qui n'a pas compris et pas entendu la même chose que toi. Quand tu fais des papiers et des documents administratifs et des actes importants pour ton patrimoine, c'est bien d'avoir vraiment ce regard critique ou cette contradiction. Parfois, il y en a un qui a tout compris et l'autre qui n'a rien compris, mais très souvent, c'est qu'on n'a pas retenu les mêmes informations, on n'a pas porté son attention sur les mêmes points. Et en fait, c'est bien qu'il y ait cette complémentarité-là. C'est très utile.
entourez, voilà, soyez entourés, ne restez pas seuls, informez-vous et puis éduquons-nous. Je crois que ça, c'est peut-être le premier des messages que tu portes. Vous pouvez suivre la newsletter d'Héloïse qui est extraordinaire, que je mettrai en lien et qui est très claire, très pédagogique et déjà une très bonne étape pour se former tout seul. Merci beaucoup, Héloïse, pour tout ça. J'espère que vous comprenez mieux le sujet des violences économiques. On ne parle pas de n'importe quoi, on parle de choses réelles. Merci Louise.
Merci à toi Laetitia, à bientôt.
Vous venez d'écouter un épisode de Vieille en puissance. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec vos amis et votre famille. Cela nous aide à faire connaître le podcast et à diffuser les messages importants pour permettre aux vieilles de gagner en puissance.